18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, mardi, on va parler des journées du Neurodon. Ça arrive très prochainement, ça sera ce week-end du 8 au 10 mai. Ça a pour but de sensibiliser. C'est une campagne nationale de collecte de fonds pour faire avancer la recherche fondamentale sur la connaissance et la compréhension du cerveau. Mercredi, on sera avec les organisateurs du Fatal Festival, le festival d'art vivant et de théâtre amateur du Maine-et-Loire. Ça sera du jeudi 5 au dimanche 8 juin 2025. Et ce soir, on est avec le Shabada, la scène des musiques actuelles angevines. On va vous parler de deux événements qui arrivent bientôt. Un concert avec Maxwell Farrington et le Super Omar, accompagné de Sand Carol. Si je prononce bien, ça sera au Héron Carré le jeudi 15 mai. On parlera aussi de l'apéro-concert qui arrive le mercredi 21 mai avec le trio angevin Hyper Jacuzzi. Et pour en parler avec nous, on sera avec Gaël Bordier, chargé de communication au Shabada. On sera avec Étienne, programmateur du Héron Carré, et Romain, du groupe Hyper Jacuzzi. Ce soir, on aura aussi la Minute Sport de Paul et on se quittera avec un nouvel épisode de Pensée Locale. Et Topette, c'est parti jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette, sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit point sur l'actualité locale avec toi, Émilien. Bonsoir Émilien.
Bonsoir Nalouen.
Un acte militant animaliste devant le bioparc de Douai-en-Anjou.
Ce samedi 3 mai, une dizaine de militants du groupuscule animaliste Pythagore se sont regroupés devant le bioparc à Douai-en-Anjou afin de déployer des banderoles et d'interpeller les visiteurs sur des cas de maltraitance animale au sein du zoo. Le syndicat Anjou Tourisme, dans un communiqué paru le lendemain, a contesté avec virulence cette action, la qualifiant de dénuée de tout fondement, témoignant d'une méconnaissance totale du travail remarquable accompli par les équipes du bioparc. Fin de citation. Selon le média indépendant Street Press, plusieurs membres du réseau serait affilié au milieu d'extrême droite mais aussi à des milieux fascisants, à savoir que le groupuscule avait manifesté en janvier à Angers pour marquer l'ouverture d'une de leurs antennes au sein de la ville.
Jacques-Olivier Martin, adjoint et ami du maire d'Angers, est décédé.
L'adjoint aux travaux et à la voirie d'Angers et membre du conseil municipal de la majorité, Jacques-Olivier Martin, est décédé ce dimanche 4 mai à la suite d'un long combat contre le cancer du cœur. Proche et ancien directeur de campagne en 2019 du maire d'Angers, Christophe Béchu, il était également vice-président d'Angers Loire Métropole en charge de la voirie communautaire et des réseaux de chaleur. Angevin de cœur et de souche, il avait consacré ses heures à la réalisation de nombreux projets, que ce soit dans la transition écologique, la future place Kennedy ou encore la mobilité. Jusqu'au bout, Jacques-Olivier Martin aura occupé ses fonctions malgré sa maladie. Finalement, après plusieurs années de lutte, celle-ci l'a emporté à l'âge de 51 ans.
Et pour finir, une collision frontale entre deux véhicules près de Beaupréau.
Ce dimanche 4 mai, vers 6h20, deux voitures sont rentrées frontalement en collision sur la route départementale 762 entre Beaupréau et le Pin-en-Mauges. À bord des véhicules se trouvaient 5 personnes. Les deux conducteurs ont dû être héliportés à l'hôpital Université d'Angers en situation d'urgence absolue, sans cependant que leur pronostic vital ne soit engagé. Les trois autres individus, des adolescents âgés entre 16 et 18 ans, ont été placés de leur côté en urgence relative et ont été transportés au centre hospitalier de Cholet. En tout, durant presque 5 heures, l'intervention a nécessité la présence de 27 pompiers aux côtés de gendarmes chargés de fermer la circulation.
Merci beaucoup Émilien pour ce point sur l'actualité. C'était ton tout dernier flash sur Radio G. Ouais. On te souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de tes études. Et on espère pouvoir t'entendre peut-être sur d'autres radios ou voir ton nom écrit dans les journaux.
Un jour, pourquoi pas.
Et il est maintenant l'heure pour nous d'accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Alors je le disais tout à l'heure en début d'émission, ce soir on est avec le Shabada et on peut peut-être d'abord commencer par parler du concert qui arrive le 15 mai. Ça sera avec Maxwell Farrington et le Super Omar en duo. Et ça sera aussi avec Sand Carol. Alors peut-être que Gaël, on peut présenter à nos auditeurs qui sont Maxwell Farrington et le Super Omar.
Oui, alors pour le coup, je pense que...
Peut-être que Étienne serait plus apte à nous en parler. Étienne, bonsoir.
S'il le sent. Bonsoir. Oui, ça va aller. Non, Maxwell Farrington et le Super Omar ou Sun Carroll. Enfin, on va commencer par Sun Carroll rapidement, qui fait la première partie du plateau. Sun Carroll, c'est un chanteur et musicien angevin qu'on connaît bien, puisque c'est aussi Maxime Dobose, le programmateur du Joker's Pub, qui a un projet qui s'appelle Sun Carroll depuis des années en groupe. On est sur une pop folk assumée et qui existe depuis plusieurs années et qui a aussi son projet en solo en guitare-voix. Et on avait décidé de le mettre en avant parce qu'il a un peu ce projet-là en pause en fait depuis un moment. Mais sauf que et Stéphane, le programmateur du Shabada, et moi, ils m'ont beaucoup, Maxime déjà, et ils m'ont beaucoup le projet Sun Carroll. Et on avait envie de le remettre les pieds à l'étrier et de le voir au Héron sur une scène sur laquelle il a jamais joué. Et puis Maxwell Farrington et le Super Omar, c'est un peu long à tout raconter, mais pour faire simple, c'est un autre projet plutôt pop. Maxwell Farrington, c'est un chanteur australien qui habite en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Et le Super Omar, en fait, c'est un musicien, compositeur, producteur du sud de la France. Et ils se sont rencontrés en festival il y a quelques années. Ils ont matché tous les deux, puis ils ont décidé de faire des projets ensemble. Donc, il y a un premier album qui est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Once. Et un autre qui est sorti l'année dernière, qui s'appelait Please Wait. Et là, pareil, on est sur une pop un peu à l'ancienne, très douce, mais très symphonique en même temps. Grosse voix de velours pour Maxwell Farrington. Si vous aimez un peu Frank Sinatra, c'est un peu ce genre de voix, vraiment un peu crooner. Et voilà, c'est des albums qui sont encensés par la critique. Et on les reçoit pour la première fois à Angers et au Héron. Et voilà, c'est de la pop classe, on va dire ça comme ça.
Ce sont pas des personnes qui ont l'habitude de qui sont du coin elles ont jamais joué à Angers pour l'instant ou c'est
sur ce projet là non. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet là normalement il est avec d'autres musiciens, mais là c'est une formule duo, donc Maxwell Farrington au chant et le Super Omar qui va faire des chœurs, clavier et guitare, si je dis pas de bêtises.
Et alors, si on revient un peu plus à Sun Carroll, je crois qu'il a beaucoup changé son univers depuis les débuts. Comment vous décririez un petit peu sa transformation ?
Oula, là, c'est une très très bonne question. je trouve que c'est un peu plus pop aujourd'hui, à mon goût. C'est aussi un peu plus mature, forcément. Parce que ça a été retravaillé. Puis là, comme je le dis, là, le projet qui est présenté, il est en solo, donc c'est encore différent parce que là, c'est le projet en groupe qui a vraiment évolué. Après, sur un guitare-voix, on est quand même sur autre chose, mais ouais, c'est beaucoup plus pop, c'est beaucoup plus mature. Je crois que Maxime, il avait beaucoup travaillé, comme il a beaucoup travaillé sur tous ses projets. Et voilà, là, on est vraiment content de le voir avec nous.
Est-ce qu'il y a un titre en particulier que vous recommanderiez pour découvrir cet artiste ?
Sur Sun Carroll, personnellement, non. Je vous conseille pour tout, hein, de toute façon, de tout écouter. Surtout que Maxime, tu parlais de l'évolution, mais même ses titres, ils changent. Donc voilà, et la dernière fois que je l'ai vu en guitare-voix, c'était sur un tout petit concert au Cercle Rouge, pour ceux qui connaissent en centre-ville. Et il avait revisité quasiment tout son répertoire, donc c'est vraiment compliqué de sortir quelque chose de particulier.
Et alors, si on parle de votre lien avec le Shabada, comment vous avez tissé des liens entre le Héron Carré et le Shabada ? Comment ça s'est passé ?
Tu veux répondre ?
Oui, je pense que c'est mieux, oui.
C'est simple. En fait, le Héron, ça existe depuis 11 ans maintenant. Ça doit faire 10 ans qu'il y a un partenariat avec le Shabada. Et puis, en fait, le Shabada, c'est un lieu qui essaye de faire ce qu'on appelle du hors les murs, parce que la musique, c'est pas toujours dans la salle de concert. Et je crois que le Héron est toujours un lieu qui se prête à du hors les murs, surtout quand il fait beau. L'endroit est super. Et voilà, le Shabada avait contacté mes prédécesseurs au Héron à l'époque. pour monter des choses ensemble. Il y a eu des super projets. Moi, je suis arrivé il y a 4 ans. On a continué ce partenariat et l'éco-production de concerts chez nous dans le cadre du le Shabada sort ce soir, donc les soirées hors les murs du Shabada. Et voilà, ça continue. C'est toujours un plaisir. C'est pas dur à organiser entre nous. C'est la ligne droite de la production de concerts. Et voilà, il y a des très, très beaux projets qui sont passés chez nous. Dans ce cadre-là, j'aurais toujours cet exemple de dire qu'en fait, il y a Parcells qui a joué au Héron Carré dans le cadre du Shabada sort ce soir. Il y a 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Parcells qui est devenu un groupe au succès international. Sauf que quand ils ont joué au Héron, bah, il y avait 200 personnes. Personne ne les connaissait. C'était des petits Australiens à la tête toute mignonne qui jouaient devant 200 personnes et dont c'était la première tournée européenne. Donc voilà, on se comprend, on se connaît et on bosse bien ensemble, donc tout va bien.
Et est-ce que justement vous pensez que les guinguettes comme le Héron Carré, c'est une bonne manière de faire découvrir, de faire émerger des artistes comme ça ?
Oui, enfin après ça dépend les guinguettes. Il y a des guinguettes qui font des concerts, d'autres qu'on font pas, d'autres qui ont des petites programmations, d'autres des plus grosses comme la nôtre. Et en tout cas, en fonction de ce qu'on a envie d'y faire, ça peut être un des objectifs. Et je crois que c'est le cas aussi, c'est le cas pour moi dans le cadre de la programmation du Héron. On essaye de faire de l'émergent beaucoup pour des questions de moyens et de budget aussi, même si on a déjà fait des plus gros concerts. Mais on a, enfin en tout cas dans la programmation que je mène au Héron, on a toujours été dans cette direction-là, d'abord du local, ensuite de l'émergent, une ou deux têtes d'affiche pour compléter, et puis des projets un peu hors musique. Mais voilà, effectivement, pour répondre à ta question, la réponse est oui, en tout cas pour le Héron.
Et vous restez avec nous, Gaël, Étienne. On continuera à parler de tout ça juste après, mais on va d'abord faire une pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Kampala de Gondawa. On écoutait Kampala de Gond Awa sur le 101.5 FM et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est toujours avec le Shabada pour parler de la prochaine date qui arrive. Ça sera le 15 mai, donc en collaboration avec le Héron Carré. Etienne, si on continue à parler de la programmation Héron Carré, comment ça se passe? Est-ce qu'on programme vraiment tout style de musique?
Presque. On est sur de l'éclectisme assez large, effectivement. Il y a juste quelques styles de musique où l'on considère que ça ne se prête pas trop pour de la guinguette, que l'on ne va pas faire. Exemple du Gabber pour les musiques électroniques, ou exemple du métal vraiment hardcore, parce que ce n'est pas hyper adapté pour la guinguette, mais ça n'empêche pas qu'on peut imaginer faire du métal quand même. Mais voilà, en dehors de ça, en dehors voilà, des musiques trop extrêmes, parce qu'on reste sur un public qui est large, sur un tout public en fait, on fait vraiment de tout, donc la réponse est oui.
Le but, c'est vraiment de faire découvrir des artistes locaux aussi, du coup.
Ouais, bah, on en parlait tout à l'heure. Comme j'aime bien stater ma programmation, on est sur chaque année entre 60 et 70% de projets locaux, que ce soit entre les groupes et les DJ sur la programmation. Donc, effectivement, il y a une contrainte économique, mais pas que, parce que le coût des cachets, il est la même. Hein, il est souvent le même pour un groupe local ou pour un groupe qui n'est pas local. Mais voilà, c'est qu'on avait envie de défendre cette ligne directrice-là et de mettre en avant des groupes et des projets angevins dans un maximum d'esthétique, comme on en parlait, parce que le Shabada, ils n'ont pas le temps de mettre tout le monde en avant toute l'année, parce que les autres lieux non plus, parce que aux Jokers, ont fait un petit peu moins de d'éclectisme, même s'ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Voilà, donc on a décidé de partir sur ça, l'éclectisme le plus large et de défendre aux deux tiers à peu près une programmation locale.
Eh bien, on invite tous nos auditeurs à venir découvrir. Du coup, ça sera le jeudi soir, le 15 mai. À quelle heure peut-être? On peut peut-être rappeler l'heure.
À partir de 21h.
Ils pourront donc découvrir Maxwell Farrington et le Super Omar en duo et avec bien évidemment Son Carol en solo. Il y a également une deuxième date pour le Shabada, ça sera le mercredi 21 mai à 19h15. Ça sera un apéro-concert donc avec Hyper Jacuzzi. Et on est avec Romain, bonsoir.
Bonsoir.
Tu fais donc partie du groupe Hyper Jacuzzi. Comment est-ce que tu définirais la musique, le style de musique que vous avez au sein de votre groupe à quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément?
Eh bien, ça peut être... Nous, on l'a défini comme du live tronica. En gros, on joue une musique qui est principalement électro et après qui puise dans différents styles, dans différents genres, comme le rock ou dans le nouvel album qui va paraître en décembre, il y a aussi des morceaux qui peuvent être post-punk. Enfin voilà, c'est globalement électro et la particularité qu'on a, c'est qu'on joue tout en live. Donc il y a un batteur, un bassiste et moi au saxophone. Et donc la notion de live tronica fait appel à ce terme de live où on fait tout en direct sans aucune boucle. Et voilà, en gros, c'est principalement de l'électro.
Et alors, comment est né votre groupe?
Le groupe est né en 2020, fin 2021, et où on était tous les trois, on avait déjà joué tous les trois dans différents autres projets, et on se connaissait depuis pas mal de temps. Et on a décidé de se réunir pour essayer de jouer de la musique électro, mais avec des instruments acoustiques, et d'essayer de transformer nos sons en utilisant pas mal de procédés qui utilisent principalement des pedalboards. Et en gros, c'était ça. Au début, c'était juste un délire pour essayer de faire de la musique électronique, mais avec des instruments acoustiques. Et c'est né comme ça, ouais.
Et du coup, quelles ont été vos influences? Est-ce que vous avez été influencé par d'autres artistes?
Ouais, il y a des groupes qui font déjà ça. Donc évidemment, on est influencé par toute la scène électro depuis les années 90. On écoute beaucoup ça, toutes sortes de producteurs. Et il y a des groupes qui font ça aussi de manière acoustique. Et depuis une quinzaine d'années, je dirais, notamment des groupes comme Cabaret Contemporain, qui sont français, ou Electro Guzzi, des Autrichiens. Bon, c'est un peu des groupes de niche quand même, hein, qui font cette musique-là et qui sont pas connus du grand public. Mais il y a des Belges par exemple qui s'appellent Echt, eux ils font plus de la trap. Et enfin voilà, il y a quand même une quinzaine de groupes assez connus quand même, si on s'intéresse un peu au sujet, qui évoluent sur les scènes européenne, enfin du monde sûrement, depuis une quinzaine d'années.
Alors, vous avez récemment sorti un clip, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler ?
Alors, on a sorti un... Récemment, c'était un single qui est sorti il y a 2 semaines, sans clip. Mais oui, on a sorti plusieurs clips depuis 2022. Et avec, d'ailleurs, qui ont tous été clippés par le même réalisateur qui s'appelle Olivier Lacombe. Et cette même personne vient de nous faire l'artwork de l'album qui paraîtra en décembre. Et c'est une photo que je vous invite à aller découvrir, qui est déjà sur les réseaux, et qui accompagne donc le premier single qui est sorti il y a 2 semaines. Et en gros, c'est un peu un tournant pour nous au niveau de la musique, un léger tournant, j'entends, où on a fait une session d'enregistrement en décembre sur 3 jours, et on a improvisé pendant 3 jours. Et de ces 3 jours-là, on a coupé des morceaux qui nous intéressaient dans nos improvisations, et on a fait des morceaux.
Et qu'est-ce qui vous inspire alors quand vous composez tout ça ?
Eh ben, en fait, c'est principalement des sons qu'on écoute tous les trois avant. Et on se met de la musique, on l'écoute, et après on essaie de jouer avec la musique qu'on a écoutée. Et il en sort de l'improvisation. Donc après, c'est vrai qu'on a l'habitude de jouer tous les trois et d'improviser ensemble. C'est une pratique qu'on a depuis pas mal de temps et qu'on aime faire. Et on a souvent composé nos morceaux comme ça, et en jouant tous les trois. Et donc voilà, ce qui nous inspire, c'est la musique qu'on écoute à trois, bien qu'on ait tous les trois des influences différentes quand on écoute de la musique chez soi, mais on se donne des lignes directrices de travail et de musique à écouter, et ensuite on l'enregistre. Et là, il se trouve que cette session-là s'est très bien passée, parce qu'il en est sorti 10 morceaux, et qui vont sortir. Donc il y a le premier qui est sorti il y a 2 semaines, qui s'appelle Michael Sudexta, et donc je vous invite à découvrir. C'est vraiment une sorte d'électro post-punk. Voilà, avec toujours ces trois mêmes instruments, batterie, sax et basse. Et donc sortiront tous les mois jusqu'au mois de décembre un single par mois, donc, et l'album qui sortira en décembre. Et on a fait quelques featuring sur l'album que je pourrais peut-être parler après.
Exactement, on continuera d'en parler juste après. Romain, vous restez avec nous. On va d'abord passer à la Minute Sport avec toi, Paul.
La Minute Sport de Topette.
Bonsoir Nalouen, bonsoir à tous. Angesco fait un grand pas vers le maintien. Cholet Basket paye le prix des absences et le mercato des Ducs d'Angers déjà lancé. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport. C'est ce que l'on appelle une victoire importantissime. En Ligue 1 de football, Angesco a arraché ce dimanche la victoire face aux Canaries du FC Nantes 1-0. C'est Jim Alevina, entré en cours de jeu, qui a offert l'unique but de la rencontre peu après la mi-temps, et c'est aussi son premier but de la saison. Il l'a inscrit sur une frappe du pied droit à droite du but d'Anthony Lopez. Avant la rencontre, c'était un match crucial pour le maintien qui se jouait entre Nantes et Angers, 14 et 15e au classement. Les positions se sont donc inversées, les noirs et blancs sont passés devant les jaunes et verts d'un petit point à 33 unités et fait un grand pas vers le maintien. C'était peut-être tout ou rien pour les Angevins, sachant que leurs 2 dernières journées les opposent à Strasbourg et à Lyon, 2 équipes qui jouent pour les places européennes. Et puis sur le papier, c'était surtout mal embarqué pour les hommes d'Alexandre Dujeu, qui restaient sur une série de 7 défaites en 8 matchs. L'infirmerie était elle aussi garnie avec les absences de Capel, Belkebla et Shérif, entre autres, qui a contraint le tacticien Angevin à proposer une équipe remaniée. A noter également le déplacement de 1400 supporters d'Angers dans un parquage visiteur de la Beaujoire prêt à craquer. Samedi prochain, le SCO recevra Strasbourg sur sa pelouse.
Quant à Cholet Basket, c'est un peu moins la fête.
Oui, Nalouen, les Choletais se sont inclinés ce dimanche face à Lyon-Villeurbanne de 19 points, 75-94. Sur leur parquet, les hommes de Fabrice Lefrançois n'ont tout simplement pas pu rivaliser, dû à l'absence de 3 joueurs, Bastien Vautier, Chris Ebou-Endo et Nathan De Souza. Dès le premier quart-temps, l'ASVEL a pris l'avantage de 12 points en infligeant 17-5 à une équipe de Cholet médusée. Le rapport de force s'est légèrement équilibré ensuite, mais il était déjà trop tard pour revenir face aux Lyonnais, fort de l'international français Nando De Colo. Les Choletais sont 4e, il leur reste 2 matchs avant les playoffs et ça commence dès samedi face à Nancy. On passe désormais en hockey sur glace en Ligue Magnus puisqu'il y a déjà du mouvement du côté des Ducs d'Angers. Vaincu en finale des playoffs face à Grenoble, l'effectif de l'entraîneur Jonathan Paredes a déjà entamé son remaniement. Des départs d'abord et pas des moindres puisque c'est Brady Shaw, le meilleur scoreur angevin, qui s'en va, tout comme l'international français Peter Vallier et Thomas Suire. La première recrue est elle aussi un attaquant et c'est l'expérimenté Romain Gutiérrez qui débarque sur les bords de Maine en provenance de Gap. Le club sera également en passe de
prolonger des joueurs importants tels que Nicolas Ritz, Théo Sarliève et Samy Tavernier.
On retourne à Angesco, pardon, mais cette fois pour du handball.
Oui, et l'espoir des Angevins prend presque définitivement fin. Les coéquipiers de Williams Manebar ont perdu vendredi soir à l'extérieur face à Pau, 36-27. C'était leur dernier espoir de se maintenir sportivement en Pro League après une fin de saison surprenante. Pour rappel, les Noirs et Blancs semblaient se diriger inéluctablement vers une relégation puisqu'ils n'avaient pas gagné un seul match depuis septembre. Et puis il y a eu ce match face à Valence début avril, puis contre Massy il y a deux semaines, deux victoires qui ont entretenu la flamme. Bon dernier avec 8 points, Angers ne peut donc pas espérer le maintien sportivement, je précise sportivement, puisqu'il y a toujours l'espoir de rester en Pro League administrativement, puisque la Ligue nationale de handball exige un cahier des charges strict aux promus de division inférieure, tellement strict que certains ne peuvent pas monter. Et donc Angers pourrait rester. Voilà, donc dans le reste de l'actualité, en roller hockey, les Hawks d'Angers ont créé l'exploit samedi en s'imposant 3-2 face à Villeneuve, pourtant favori écrasant. Le match retour aura lieu samedi à l'extérieur. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Minute Sport.
Merci beaucoup, Paul, pour cette Minute Sport. Est-ce que c'était la dernière de tes Minutes Sport sur les ondes de Radio G?
Peut-être. Il y aura peut-être fin juin, mais ce n'est pas sûr.
Eh bien, on verra. On espère qu'on te réentendra fin juin sur Radio G. Sinon, toute l'équipe de Radio G se joint à moi pour te féliciter et te remercier beaucoup pour ces trois années au sein de Radio G et de Topette. On te souhaite, pareil, beaucoup de courage pour la suite. Et nous, on est toujours à l'écoute de Topette avec nos invités du soir.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
On parlait donc de la date qui arrive mercredi 21 mai. Ça sera donc un apéro-concert avec le groupe Hyper Jacuzzi. Romain, comment vous vivez la scène, vous qui jouez beaucoup, beaucoup en live?
Comment on la vit? On la vit très bien. On fait avant tout cette musique-là pour la partager avec le public. Et c'est une musique qui vit surtout en live, même si on adore enregistrer et que les morceaux à venir, on est très content de les partager en streaming et sûrement en vinyle aussi. Mais on est très heureux de jouer au Shabada en tout cas, parce que ça fait... on y avait joué en septembre, il y a 2 ans, je crois, lors d'une soirée. Et là, on est très content d'y aller. Et c'est une salle qu'on aime beaucoup et c'est un lieu où on a beaucoup répété et où on continue de beaucoup répéter. Donc ouais, c'est une date importante pour nous.
Gaël, comment est née peut-être l'idée de ce format apéro-concert au Shabada? Ça fait longtemps que ça existe?
Oui, bien plus longtemps que mon arrivée, donc je ne saurais pas forcément répondre à cette question. Je crois que le concept, c'était vraiment de changer de format et de pouvoir proposer une variante en fait, des concerts traditionnels avec une première partie et une tête d'affiche au Shabada. Ça permet aussi de proposer en fait ce format à différents publics et des publics qui peuvent pas forcément tout le temps venir, notamment les familles avec les enfants. Donc ce format d'apéro-concert 19h15, il est assez idéal pour ça aussi.
Et alors, quelle est la relation que vous entretenez avec le groupe Hyper Jacuzzi? C'est un groupe qu'on aime bien programmer au Shabada?
Oui, je pense. Enfin, du coup, c'est la deuxième fois qu'ils viennent au Shabada. C'est chouette d'avoir des... C'est toujours chouette d'avoir des groupes locaux qui viennent jouer, d'autant sur ce style, parce que c'est vrai qu'effectivement, on en fait un petit peu moins. Donc, c'est un peu rare, on va dire, au Shabada. Et donc, c'est d'autant plus précieux de pouvoir donner l'occasion à des groupes Electronica, ou je ne sais plus ce que tu disais, Romain, mais en tout cas, d'autant dans cette branche-là de pouvoir jouer. Puis, c'est super chouette en live. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a peut-être d'autres dates qui arrivent au Shabada bientôt dont on peut parler?
Eh bien, si vous aimez les apéros-concerts, on en fait un premier justement ce mercredi 7 mai avec le groupe Linka. On change de style pour le coup. Là, on va plus vers la chanson. Si vous aimez déjà Gris Cornac, qui est un groupe de chansons locales également, justement, vous devriez bien apprécier Linka. Et puis, on est vraiment sur des petits prix pour ces deux formats-là. Donc, faut pas hésiter à venir.
Et c'est déjà bientôt la fin pour Topette. Alors on va reprendre peut-être depuis le début. On parlait en premier de la date donc qui arrive le jeudi 15 mai à 21h au Héron Carré, donc avec Maxwell Farrington et le Super Omar, et aussi Son Carroll. C'est à quelle heure, Étienne, si on rappelle peut-être l'horaire?
Ouais, 21h pour le début de la soirée. Donc Son Carroll qui jouera en premier, et Maxwell Farrington et le Super Omar en second, un peu plus vers 21h45, 21h50 a priori.
Et où est-ce qu'on pourra retrouver toutes les infos pratiques, peut-être sur le site du Shabada, les réseaux sociaux du Héron Carré?
Oui, ouais.
Exactement.
Pareil.
On peut vous retrouver où, le Héron Carré? Sur Facebook, Instagram?
Facebook et Instagram, parce qu'on est des boomers et qu'on n'a pas TikTok.
Et Romain, pour la deuxième date, donc le 21 mai au Shabada pour l'apéro-concert. Où est-ce que Hyper Jacuzzi, on peut vous écouter où? Sur toutes les plateformes?
Ouais, partout. Sur YouTube, il y a pas mal de clips à voir, et sur Insta, évidemment.
Merci beaucoup Gaël, Romain et Étienne d'être passés dans Topette. Nous, demain, on parlera donc des journées du Neurodon. Et mercredi, on sera avec le Fatal Festival. Et moi, je vous dis à demain et Topette.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
La désimperméabilisation des sols est une problématique qui ne date pas d'aujourd'hui et dont la ville de Laval s'est saisie depuis au moins 2018 déjà. David Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur nature et ville de la ville de Laval et Laval Aglo. L'infiltration de l'eau et la végétalisation, ce sont vraiment deux axes très importants.
Oui, oui. La ville de Laval s'est engagée depuis de nombreuses années sur des projets structurants de désimperméabilisation et de végétalisation des espaces urbains. Et là, et d'avenir, c'est un projet qui lie l'infiltration des eaux par la désimperméabilisation, par la mise en place d'outils de gestion intégrée des eaux pluviales, et puis la végétalisation. Et ça nous permet d'avoir une pratique vertueuse vis-à-vis des ressources en eau. On infiltre l'eau au plus près de la végétation pour que les stocks d'hiver puissent alimenter la végétation en été et qu'elle puisse, tout au long de l'année, cette végétation transpirer pour rafraîchir la ville.
Et puis, effectivement, on voit aussi que c'est une vraie nécessité aussi de permettre à l'eau de rentrer le plus vite possible dans le sol.
Exactement. Essayer d'infiltrer la goutte d'eau au plus près de son point de chute. Donc ça a bien sûr un intérêt vis-à-vis des crues. Et ça a aussi un intérêt sur le cycle domestique de l'eau, puisque les eaux collectées par tous nos réseaux captent souvent des eaux de ruissellement. Et donc ça permet d'éviter à la fois des rejets polluants directs dans le milieu naturel en évitant de surcharger les systèmes d'assainissement.
C'est une vraie politique volontariste qui représente un certain coût.
L'opération qu'on mène actuellement sur le quai d'Avenière, il y a un montant total de marché de travaux de l'ordre de 155 000 euros. Certes, ce sont des travaux qui coûtent plus cher que des aménagements d'espaces publics un peu plus classiques. Mais au final, dans la gestion à la fois du cycle domestique de l'eau et du grand cycle de l'eau, on a des économies qui se feront sur le temps long et donc on rattrapera ces dépenses d'investissement. Pour cela, la collectivité, il faut le préciser, est aidée par nos financeurs, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et l'État via le Fonds vert.
Valentine Bardoul, là, on est devant un cas concret sur les quais d'Avenir à Laval.
On est sur un lieu où la désimperméabilisation est en cours. L'enrobé précédent, donc les parkings, a été enlevé. On a conservé les arbres qui existaient déjà. Et en fait, on voit que des fosses sont créées entre les arbres pour augmenter leur potentiel de vie sous terre et leur développement racinaire et leur accès à tout ce dont ils ont besoin. Et on voit aussi des parties plus grises où en fait on va pouvoir à ces endroits-là stocker et infiltrer les eaux pluviales grâce à des cailloux qui sont plus gros que ce qu'on voit d'habitude dans les travaux de voirie et qui vont avoir un vide entre eux qui va permettre à l'eau d'être stockée avant de s'infiltrer dans le sol. Plus tard, tout ce qu'on voit là va être recouvert par un revêtement, soit perméable qui va permettre à l'eau de passer au travers, soit qui va faire en sorte de pouvoir emmener les eaux pluviales vers les espaces verts pour qu'ensuite ces espaces verts infiltrent l'eau et que les arbres qui s'y trouvent puissent en bénéficier.
Et entre les deux, il y aura un géotextile, je crois ?
Oui, pour éviter qu'il y ait des particules fines qui se mélangent avec la partie structure réservoir en gros cailloux, on met un géotextile qui protège le mélange entre ces deux composés-là et qui permet toujours quand même à l'eau de passer au travers.
Et le résultat qu'on peut voir alors de l'autre côté des quais, le quai Paul Boudet, on a des pavés avec des joints assez larges.
Alors pour certains, oui, pour la partie PMR. Et pour les autres, on voit qu'ils sont enherbés. On voit à peine le fait qu'il y ait une structure qui maintient l'herbe pour permettre au véhicule de se garer et de ne pas détériorer ce qui a été planté. Et en fait, ça rajoute du vert à cet espace qui était un parking classique avant. Et on a aussi des plantations sur les côtés pour permettre à l'eau de s'infiltrer, pour recharger les nappes, avoir plein d'effets positifs sur le cycle de l'eau.
C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cette interview. Et on verra pourquoi récupérer les eaux et les canaliser tout de suite, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Merci en tout cas de ces travaux pratiques, en quelque sorte, que l'on a pu faire avec vous, Valentine Bardoul. Merci beaucoup.
Merci.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.